C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
CRUNSCSTWARE. En direct de rue Descartes. La web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité. Transistor.
Computation.
Des chroniqueuses et chroniqueurs.
Erasing.
Prête à tout.
Force Field.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le direct de rentrée de Transistor, la web radio de l'ENS de Lyon. Il est 12h34. On reste avec vous pendant une heure devant le rue Descartes.
Force Field. Frequencies. Computation. Erasing.
Je suis Sandrine.
Bienvenue au direct de rentrée de Transistor, il est 12h34, on est installé au soleil devant le rue du site Descartes. Il y a des osios, des micros, un régisseur au taquet, des chroniqueuses et des chroniqueurs sur le pied de guerre ou presque, script en main ou en train de courir dans le métro. Bref, c'est la rentrée pour nous aussi. On est heureux de te retrouver, toi qui nous écoutes, ou de te rencontrer si tu es nouvelle, nouveau. Il paraît qu'il faut se présenter lors d'un direct de rentrée, alors voilà, enchanté, nous c'est Transistor, web radio de son école. On aime le son et on fait de tout avec. Tu peux nous retrouver sur transistor.fr et écouter nos nombreuses émissions dans une de nos quatre rubriques, Actu à l'école, Culture et Face B. Du reportage au ciné en passant par le théâtre, la musique, la création, le docu ou la politique, on touche à tout. Si toi aussi tu veux passer derrière le micro, n'hésite pas à nous rejoindre d'ailleurs le 25 septembre à 20h en D2001 pour notre réunion de rentrée. Mais il est temps de commencer ce direct. Au programme aujourd'hui, une interview, la rentrée littéraire avec Marie, Les yeux ont des oreilles, la rentrée de la bande dessinée, une émission de cinéma, L'encre et la lumière, et enfin la musicienne. Mais tout de suite, on commence avec le journal, avec Rémi, Mathilde et Marie. Bonjour à tous les trois.
Bonjour,
bonjour
May.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on commence donc avec le rappel des titres pour aujourd'hui. Au sommaire, nous irons en Tunisie, nous verrons aussi l'Océan Viking, ce navire qui a accosté en Italie ce week-end. Nous ferons le point sur les événements en Arabie Saoudite et puis au National, il sera question de la réforme des retraites, de la rentrée politique et de pesticides. On terminera ce tour d'actualité médiatique par une revue de presse avec Mathilde. Et puis on reviendra sur la récente expulsion du squat L'Amphi-Z à Villeurbanne. Du côté des actualités locales, c'est donc le journal sur Transistor.
Et on commence donc par la Tunisie. Oui, le 15 septembre dernier, les Tunisiens étaient appelés aux urnes pour élire le successeur du président Essebsi décédé en juillet dernier. Le résultat du premier tour de ce scrutin présidentiel, la défaite des partis politiques traditionnels et la victoire de deux candidats outsiders. Le juriste hyper-conservateur Kais Saied, défavorable à l'égalité homme-femme dans l'héritage, à l'abolition de la peine de mort et à la dépénalisation de l'homosexualité, et Nabil Karoui, magnan à télévision, incarcéré pour évasion fiscale, mais quand même populaire pour ses actions caricatives en Tunisie rurale. Depuis 2015, la Tunisie a été gouvernée par une coalition entre modernistes et islamistes du parti Ennahda. Aujourd'hui, l'avenir de ce petit pays d'Afrique du Nord reste incertain. La scène politique est fragmentée et les modernistes divisés, les populistes sont de plus en plus appréciés, le parti islamiste s'est normalisé et les compétences du président sont vivement débattues. Bref, des enjeux nombreux pour une élection qui marquera certainement la fin des clivages traditionnels et du pouvoir des partis dits du système. On passe.
Le navire humanitaire Océan Viking, affrété par SOS Médecins, a pu débarquer samedi dernier 82 réfugiés sur l'île italienne de Lampedusa après un feu vert arraché à l'Italie qui marque un changement de cap pour le pays par rapport à la politique menée par Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur qui avait quitté le gouvernement italien il y a quelques semaines. Les réfugiés seront accueillis par l'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal et le Luxembourg. Et cet événement rouvre un espoir d'ouverture de discussion avec l'Italie pour une politique concertée d'accueil des réfugiés en Europe.
On passe maintenant à l'Arabie Saoudite. Samedi 14 septembre, les rebelles houthistes yéménites ont revendiqué l'attaque en drone de deux sites pétroliers d'Arabie Saoudite en représailles aux attaques de Riyad. Mike Pompeo a immédiatement accusé l'Iran, allié des autistes et grand rival de l'Arabie Saoudite, d'être à l'origine de ces attaques, et Trump mentionnait l'éventualité d'une réponse militaire. En mai dernier, les Houthis avaient déjà attaqué deux stations de pompage saoudiennes et commis des actes de sabotage pour lesquels les États-Unis accusaient l'Iran d'être coupable. Des événements qui pourraient avoir d'importantes conséquences géopolitiques. Les attaques ont réduit de plus de moitié la production de pétrole saoudien, le cours de l'or noir s'est envolé de 10% hier matin et les experts estiment qu'il faudra des semaines à l'Arabie saoudite pour rétablir sa pleine capacité de production. Mais si Riyad va sûrement puiser dans ses stocks pour compenser cette baisse de production, la confiance des traders pourrait être amoindrie par cette hausse des prix. Économie, géopolitique et rivalité interne, les enjeux de cette affaire à suivre de près sont donc nombreux.
Et c'était ce week-end la rentrée politique des différents partis d'opposition à gauche, tout d'abord avec la fête de l'humanité qui a eu lieu ce week-end donc. Le rassemblement annuel de la gauche s'est déroulé comme une histoire écrite un petit peu d'avance. Les routiniers appellent à l'union, cachant mal des dissensions pérennes. Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste, après la défaite du parti aux européennes, avance un programme ambitieux et commun qu'il souhaite développer avec les autres partis de gauche. Finit donc peut-être l'isolationnisme du PC. Clémentine Autain et Elsa Faucillon, quant à elles, appellent un Big Bang de la gauche quand Olivier Faure revendique la défense du clivage gauche-droite. C'est bien de l'identité de la gauche qu'il s'agit ici, avec cette défense d'une couleur commune. Enfin, Adrien Quatennens de la France Insoumise rappelle « L'ordre du jour n'est pas le rassemblement d'un camp, mais la construction d'une nouvelle majorité. Une façon habile de rappeler que l'identité de la gauche est plus que jamais vacillante. » L'extrême droite également. Le Rassemblement national faisait sa rentrée à Fréjus ce dimanche avec une ambition affirmée, 2022, et les municipales comme marchepied d'ici là. Et là aussi, on appelle au rassemblement des souverainismes tout en consacrant le discours de Marine Le Pen à la proximité, un thème qui n'a sans doute pas manqué d'inspirer le mouvement des Gilets jaunes.
Alors, puisqu'on parle rassemblement et contestation, parlons maintenant des grèves et de la réforme des retraites. Une grève historique à la RATP, des pilotes de ligne, médecins et avocats mobilisés partout en France. La situation est inédite et les Français se mobilisent en masse contre la réforme des retraites proposée par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Parmi les principaux reproches adressés au nouveau système de retraite à points, son insécurité. Les Français, en effet, ne connaîtront ni leur âge de départ à la retraite, ni le montant exact de leur pension. On dénonce aussi le fait que les régimes de retraite autonomes se fondront dans le système universel prévu par la réforme. Autre inquiétude, les réserves accumulées par les caisses de retraite complémentaires pourraient être captées par le gouvernement et certains n'hésitent pas à parler de spoliation. Dernier point d'achoppement important, certaines professions vont également voir leur taux de cotisation augmenter. C'est le cas des avocats. Et même si certains métiers sont concernés par une baisse de ce taux de cotisation, cette baisse se traduira aussi par une baisse des pensions et des droits à la retraite. Parmi les autres mesures annoncées par le gouvernement Macron, une retraite minimale à 1 000 euros, la réindexation sur l'inflation des retraites de moins de 2 000 euros et un âge légal de départ complété par un âge d'équilibre. Un projet phare du fameux acte 2 du quinquennat qui risque de donner du fil à retordre au gouvernement. Car même si Édouard Philippe apprenait le dialogue en assurant que les concertations auraient lieu jusqu'à fin 2019 et le vote avant l'été prochain, SOS Retraite, Force Ouvrière et la CGT appellent à continuer la lutte.
C'était hier au tribunal correctionnel de Lyon, deux activistes d'ANV COP21 qui s'étaient introduits dans la mairie du 2e arrondissement il y a quelques mois pour y décrocher de portraits d'Emmanuel Macron et étaient inculpés de vol en réunion, 500 euros étant requis par le parquet, ont été relaxés par le tribunal, se fondant entre autres sur le témoignage de l'ex-ministre Cécile Duflot, selon lequel l'accord de Paris sur le climat n'a pas été respecté en France par manque de volonté politique. Le jugement est une véritable reconnaissance inédite de la désobéissance civile et affirme que, je cite, « le mode d'expression des citoyens ne peut se réduire au droit de vote mais doit inventer d'autres modes de participation face à un état de nécessité qui rend le décrochage légitime. Ce décrochage qui doit être interprété, je cite, comme un substitut au dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple, à bon entendeur.
Et pour clore ce journal, un petit point sur les pesticides. L'affaire avait beaucoup fait parler d'elle cet été. Le maire de Langouette avait été convoqué en justice pour avoir refusé l'épandage de pesticides près des habitations. Avant-hier, les maires de Paris, Lille, Nantes, Grenoble ou Clermont ont interdit l'usage de pesticides sur leur territoire. Certains ont opté pour une interdiction totale du produit, d'autres ont préféré punir les épandages effectués à moins de 150 mètres des habitations. Certains dénoncent un coup de com', étant donné que l'usage des pesticides était déjà limité en milieu urbain et interdit pour les particuliers. D'autres, au contraire, saluent une initiative qui risque de faire bouger les choses, alors qu'une récente étude confirme que 60% des pesticides seraient des perturbateurs endocriniens.
Et après ce rappel des titres, nous passons au billet d'ici.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Les communistes et fascistes réactionnaires.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets sont abordés, il sera mon invité en direct.
Ça s'est passé mercredi dernier à Villeurbanne. Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation de la cinquantaine de personnes qui continuaient d'occuper l'amphi Z. Cette occupation qui durait depuis octobre 2017. Ces 50 personnes restaient, mais 200 ou 300 personnes avaient été logées dans le squat et puis étaient peu à peu parties pendant l'été suite à l'annonce de l'évacuation et à une décision de justice dans ce sens. L'évacuation a donc eu lieu mercredi dernier, dans le calme, annoncent les autorités, quoique les personnes réfugiées qui ont été expulsées n'aient pas pu emporter leurs affaires. Et c'est alors le début d'une semaine d'errance qui a commencé pour elles, comme le raconte Sarah au micro de Transistor.
C'est pour l'instant, là, c'était la semaine du marathon de l'horreur. On était, donc à partir de l'expulsion qui a eu lieu mercredi matin, on a passé la semaine à errer de trottoir en trottoir, à essayer de faire pression sur la préfecture qui avait promis qu'elle relogerait des personnes et qui n'a absolument pas tenu ses engagements parce qu'ils sont complètement foutus d'eux. Ensuite, on a essayé d'occuper la mairie de Villeurbanne pour leur demander d'ouvrir un gymnase, sachant que la mairie de Villeurbanne s'était montrée avait eu un discours très positif par rapport à l'Amphi Z, avait même dit qu'elle était prête à penser une légalisation, quelque chose comme ça. Donc là, on voit aussi un peu l'hypocrisie des acteurs publics qui disent soutenir, mais qui en fait, quand ils sont mis en position d'agir pour de vrai, ils font rien. Donc ensuite, on est allé quémander dans les églises, ce qui était quand même assez humiliant. Donc voilà, ensuite on a tenté de réoccuper Lyon 2 pour demander à la présidente de nous ouvrir un gymnase, ce qui a été soldé par une intervention policière massive encore une fois. Et en gros, c'est ça l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on va quelque part, si on demande, on nous dit non. Si on y va en faisant pression par le nombre de personnes, on nous envoie les flics directs et la quête reprend. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on erre comme ça de lieu en lieu, il n'y a aucune possibilité pour penser un futur un tout petit peu plus à long terme. Il y a une possibilité pour ouvrir un autre squat, aucune possibilité pour même planifier une lutte politique, pour organiser des manifs, parce qu'on est tellement, tellement dans la précarité, tellement dans la peur, tellement dans la soumission à l'ordre policier, à l'ordre de l'État, qu'en fait, on ne peut absolument rien faire.
Certaines associations que nous avons contactées font d'ailleurs état d'une absence totale de ressources pour reloger ces personnes. Les services de la préfecture chargés du logement auraient même redirigé certains demandeurs vers les squats de la ville. C'est que malgré l'essoufflement du sujet dans les médias, la crise des réfugiés est particulièrement aiguë cet été, comme le rappelle également Sarah à notre micro.
Cette expulsion, bien sûr, elle est décidée au niveau de la préfecture de Lyon. Du coup, c'est toujours dans un contexte local qu'on décide une expulsion d'un squat par rapport à la mairie ou à je sais pas quoi. Mais en fait, elle s'inscrit quand même dans le cadre dans un contexte qui est celui de cet été en France et qui a connu des expulsions massives, nombreuses et répétées de plein de squats de personnes sans papier ou en cours de procédure. Et c'est-à-dire qu'il y a eu quand même plus de 1000 personnes qui se retrouvaient à la rue à Bordeaux au mois de juillet. Il y a plusieurs squats qui ont été expulsés à la suite. Il y a eu la même chose qui s'est passée à Lille, à Caen, à Rennes, et donc tout ça à la fin de l'été. Donc en fait, ce qui se passe à Lyon n'est pas du tout qu'un événement local. C'est une politique de répression contre les habitations illégales de personnes sans papier, qui pourtant, dont la plupart pourtant, auraient un droit théoriquement à un hébergement par l'État, qui est en place, et du coup, c'est à penser dans le cadre de la politique de répression nationale à l'encontre des personnes étrangères.
L'expulsion de l'Amphiz, enfin, c'est également l'expulsion d'un lieu très particulier où, je le disais, 200-300 personnes réfugiées et leur soutien ont habité pendant près de 2 ans maintenant. Ce lieu issu d'une occupation à l'automne 2017 sur le campus de Bron de l'Université Lyon 2 était devenu un véritable lieu d'expérimentation politique qui fera date dans l'histoire politique lyonnaise.
Enfin, toutes les formes d'autogestion, d'auto-organisation étaient présentes sur le lieu avec les assemblées d'habitants, etc. C'était un lieu où il y a eu beaucoup d'événements politiques pour parler de la question des travailleurs et travailleuses sans papier, des demandeurs de demande d'asile, de l'impérialisme en Afrique, voilà, de ces questions-là. Il y avait une super grande solidarité, il y avait une solidarité avec les gens du quartier et voilà, et de l'auto-organisation et de la solidarité des habitants entre eux et habitants entre elles. Donc voilà, ça c'est assez fort. Et en fait, mine de rien, ça se retrouve quand même aujourd'hui dans le sens où il y a plusieurs habitants qui m'ont dit, en fait, tu sais, moi, si je voulais, je dormirais dans la rue, là, et puis peut-être que j'attendrais que quelqu'un me propose de venir chez lui, en fait, quelqu'un de ma communauté ou je sais pas quoi. Mais en fait, non, parce que je vois que la dynamique qu'on a pris là, c'est qu'on reste ensemble et on reste ensemble jusqu'à la fin. Et c'est super important pour nous, ça, de rester solidaires entre nous. Et je crois que ça, c'est clairement des habitudes et des choses qui sont créées pendant l'Amphizède.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor.
Et à midi passé de 50 minutes, on te retrouve Mathilde, c'est l'heure de ta revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et ce sera une revue de presse très noire aujourd'hui. Puisqu'il est impossible de faire autrement ce 17 septembre, c'est le pétrole qui est à la une de presque tous les grands quotidiens. On en a parlé dans les brèves, une attaque de drones a détruit 2 sites pétroliers majeurs en Arabie Saoudite, provoquant une hausse conséquente du prix du baril. Cet événement géopolitique et économique majeur prend l'allure d'un duel à la une de Libération, qui titre « Iran et États-Unis sur un baril de poudre » et plus loin dans ses pages « Iran et États-Unis à leur risqué baril ». Libération donc, toujours aussi avide de jeux de mots, tandis que dans le Figaro, on préfère désigner directement un responsable en titrant « Les provocations de l'Iran font monter la tension dans le Golfe ». Le Monde, lui, préfère y aller tout en nuances. L'administration américaine a accusé l'Iran, qui a démenti, mais plusieurs indices laisseraient penser que les attaques viendraient des milices pro-iraniennes d'Irak.
Et du coup, qu'en pensent les médias du web ?
Alors, Mediapart met l'accent sur l'aspect exceptionnel de cette rupture d'approvisionnement sur le marché, en rappelant que même lors de l'invasion du Koweït et de la révolution iranienne, elle n'avait pas été aussi importante. Incertitude et inquiétude donc, qu'on retrouve dans le titre « Pétrole, les marchés découvrent la vulnérabilité de Riyad ». On parle aussi de vulnérabilité dans un article de Reporter, remis au goût du jour par l'actualité. Mais plus que la vulnérabilité économique, c'est de la vulnérabilité de nos sociétés tout entières qu'il est question ici. Le titre donne le ton. Le pic pétrolier approche, la transition énergétique patine. Cet événement en Arabie Saoudite ne peut que rappeler notre dépendance à la ressource pétrolière, une dépendance dangereuse selon les chiffres donnés dans l'article. En effet, d'après le dernier rapport World Energy Investment 2019 de l'Agence internationale de l'énergie, dès les années 2020, la production de pétrole sera en baisse et les investissements dans l'énergie ne sont plus suffisants pour maintenir les habitudes de consommation actuelles. Et cela, alors même que les investissements bas carbone stagnent.
Et je crois qu'on n'en a pas fini de parler de pétrole, on le retrouve encore dans les pages du Monde.
Et oui, quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Croyez-moi, le reportage de Patricia Jolie aux Bahamas ne va pas vous faire rêver. Il raconte la catastrophe écologique qui suit la catastrophe humanitaire sur l'île de Grand Bahama après le passage de l'ouragan Dorian. Les vents de plus de 300 km/h ont fortement endommagé un terminal pétrolier tenu par le géant norvégien Equinor. Si la marée noire semble avoir été évitée, c'est tout de même 1,8 million de barils d'hydrocarbures qui ont été projetés dans une zone humide et arborée, entraînant une très forte pollution et mettant en danger une nappe phréatique peu profonde. Bref, vous l'aurez compris, c'est la rentrée, le moment de sortir de l'eau plus très turquoise pour aller plonger dans l'actu. Une actu qui, on l'espère, sera un peu moins sombre pour la prochaine revue de presse.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
CRUNSIFTWARE. En direct de rue Descartes. La web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité.
Vous écoutez le direct de rentrée de Transistor, il est 12h53, on est dans les jardins devant le rue Descartes. Si vous voulez nous rejoindre pour parler à la radio avec nous, pensez que nous faisons notre réunion de rentrée le 25 septembre en D2001. Merci beaucoup à Marie, Mathilde et Rémi pour le journal que vous nous avez présenté ainsi qu'à Revue de Presse. Et tout de suite, on a avec nous sur notre plateau Tiffaine Calmette. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes plasticienne et dans le cadre de la mêlée, dans les jardins de l'UNS, vous menez un projet en résonance avec la Biennale de l'Art Contemporain de Lyon. C'est bien ça ?
C'est ça.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ?
Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, Florence Messonnier, qui est commissaire d'exposition et critique d'art, m'a invitée m'a donné une carte blanche pour intervenir dans le jardin de l'ENS. Et du coup, étant donné le contexte de l'institution, le fait que ce soit une école, aussi le cadre du jardin en mouvement de Gilles Clément, j'ai souhaité proposer davantage un dispositif qu'un objet sculptural arrêté. Et donc je propose la construction d'une architecture d'hospitalité et de commensalité. Donc un endroit qui est voué à accueillir des rencontres et des discussions tout en étant le sujet même de ces rencontres et discussions.
D'accord. Alors du coup, tout le monde peut venir participer à ce projet ou il faut se préinscrire ou comment ça marche ?
Alors ce projet, donc l'architecture est intégralement construite en terre crue et elle est réalisée sous la forme de chantiers écoles. Donc c'est des chantiers participatifs où on apprend un savoir-faire, le travail de la terre en l'occurrence. Les chantiers seront au nombre de 3. Le premier chantier s'achève demain. Et les deux prochains auront lieu les deux premières semaines d'octobre. Tout le monde est invité à nous participer, à venir nous rejoindre. On invite les gens quand même à se manifester et peut-être à venir nous voir avant, à discuter. Et pendant tout ce temps, il y a un programme de rencontres et donc de discussions en relation avec la construction de cette forme, espérant que le faire et la pensée puissent se nourrir mutuellement.
D'accord. Et concrètement, du coup, à quoi ça ressemble, cette architecture ? Vous faites ça en terre glaise ? Je ne sais pas, moi, j'y connais rien du tout.
Alors, c'est des techniques de terre crue. Donc là, en l'occurrence, la première semaine, on a travaillé la bauge et la daube. Donc la daube, ce sont des briques. Et la bauge, c'est une technique de construction avec un état plastique de la terre. Ici, dans la région, on a plutôt des constructions en pisé, originellement. Donc c'est une autre technique où la terre est tassée. Alors que là, c'est une technique qui est plus manuelle, un peu comme une forme de pâte à modeler géante qui se solidifie avec le soleil que nous avons la chance d'avoir avec nous. Donc c'est entièrement un travail à la main et au pied, donc il y a vraiment un corps à corps avec la construction et avec l'objet qu'on met en œuvre. Et donc c'est vrai que c'est assez, assez agréable en fait, d'engager son corps dans la construction de forme.
D'accord. Et c'est la première fois que vous menez un projet comme ça ou vous en faites régulièrement ?
Alors c'est la première fois que je fais un projet de cette ambition et de cette taille. Effectivement, c'est jusqu'à présent, j'avais plutôt travaillé des formes à échelle humaine. Là, on passe à l'échelle de l'architecture, donc c'est un peu plus grand. Et quant à la terre crue, c'est la troisième fois que je m'y confronte. Mais j'apprends en fait énormément et j'aime bien cette dimension en fait d'apprentissage où finalement j'apprends en même temps que les gens qui viennent participer.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours un petit peu ? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là ? Comment on devient plasticienne, moi j'en veux ?
Et ben, du coup, moi j'ai fait les beaux-arts. Je fais 5 ans de beaux-arts à Bourges. Avant ça, j'avais fait lycée avec option art plastique, littéraire, une prépa en banlieue parisienne. Et après les Beaux-Arts, j'ai fait une année de groupe de recherche aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Parce que la dimension de recherche dans l'art m'intéresse beaucoup. Et je trouve qu'il y a vraiment de quoi nourrir une pratique artistique par une recherche théorique assez diverse et variée.
D'accord. Et pourquoi la terre cuite, du coup ?
Crue, là, en l'occurrence.
Ah, décidément.
La terre crue, c'est un matériau que j'ai découvert parce que je cherchais une alternative au béton et que, à force de parler de questions écologiques, de relations de l'homme à la terre, je me suis dit que ce serait peut-être bien de mettre en accord mes gestes et mes pensées. Et donc, j'ai rencontré un peu par hasard ce matériau qui m'a beaucoup plu, en fait, à la fois dans sa mise en œuvre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le corps à corps et le fait que notre propre corps soit le seul outil nécessaire pour travailler cette matière, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Et en plus de ça, il y a une réelle nécessité écologique aujourd'hui à repenser les outils et les matériaux qu'on emploie. Et la terre crue aujourd'hui est considérée comme un déchet. Étant donné que c'est quelque chose qui est retrouvé en abondance suite aux différents chantiers d'excavation qui se multiplient aux alentours des villes. Et donc cette terre, en fait, on ne sait plus quoi en faire et on va la stocker dans des sites où on accumule comme ça la terre. Mais il faut savoir que cette terre-là, c'est une terre minérale qui est du coup dans des couches inférieures de la terre et qui vient se superposer du coup à une couche végétale qui est cette couche dont on a besoin pour planter, pour la végétation, pour cultiver la terre. Et du coup, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans le futur d'avoir ces tas de ce renversement en fait de terre. Donc c'est un matériau qui est gratuit, qui est à disposition et qui demande que à ce qu'on s'en empare. Et après, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la dimension réversible de ce matériau, c'est-à-dire qu'il revient à lui-même, finalement. Et c'est sans aucun travail technique.
Alors, combien de temps elles vont rester, du coup, ces constructions d'architecture dans le jardin de Descartes ?
Alors, jusqu'à hier, il était prévu qu'elles soient détruites en janvier. Et puis, suite à une discussion avec le directeur de l'ENS, soit elle se délitera d'elle-même avec les intempéries, le temps, la pluie, etc., recomposant de nouvelles formes chaque fois jusqu'à sa disparition totale, soit elle sera pérennisée. Et ça, j'ai envie de dire, c'est soit aux étudiants c'est peut-être aux étudiants de l'ENS de s'en emparer s'ils le désirent.
D'accord, bah merci beaucoup. Du coup, bah je vous invite auditeurices à aller voir le travail de Tiffaine Calmette et peut-être à venir participer aussi. Comment est-ce qu'on vous contacte si on veut participer au projet ?
Alors, soit on peut passer par Alicia Trépos-Viel qui travaille à la culture à l'ENS, soit en venant directement me voir, soit sur Internet, c'est assez facile de trouver mon contact. Mais bon, le mieux, c'est quand même de passer quand on est là et de se rencontrer.
D'accord, eh ben, merci beaucoup d'être venu parler pour Transistor et de nous avoir présenté ce joli projet. Et ben, on passera vous voir et peut-être avec qu'on plaisir. Fera du coup quelques émissions avec vous.
Merci.
Bonne journée.
C'est sympa ce truc.
Transistor.
Il est 13h01 sur Transistor, c'est le direct de rentrée. On est en direct depuis les jardins du site Descartes. Et tout de suite, on va passer à une présentation de la rentrée de littéraire, du moins une partie, j'imagine, avec Marie.
Et oui, alors vous qui nous écoutez depuis le rue, vous avez peut-être dû affronter un dilemme cornélien, fromage ou dessert, aller en cours cet après-midi ou refaire le monde depuis les canapes de la cafette. Eh bien, moi aussi, j'ai eu affaire à un choix difficile de quel livre parler alors que la rentrée littéraire nous apporte une moisson de bouquins jubilatoires. Alors, plutôt que de jeter mon dévolu sur un ouvrage et un seul, je vous ai préparé un petit tour d'horizon des sorties littéraires et je suis convaincue que vous y trouverez au moins un livre que vous aurez envie de dévorer sur le champ. Numéro 1, les livres pour ceux qui se préoccupent du climat et de la marche du monde. Il y a d'abord Amazonia, le dernier roman de Patrick Deville. L'écrivain relate la traversée de l'Amazonie qu'il a effectuée avec son fils, ses convictions, un volume des Essais de Montaigne et un exemplaire des Contemplations. Le résultat, une alchimie qui fonctionne étonnamment bien. D'abord, des références à foison, de Zweig à Bernanos en passant par Joyce ou Lévi-Strauss, qui mettent en lumière le déclin de la culture humaniste. Ensuite, une réflexion sur la marche du monde, et enfin des témoignages d'une justesse rare sur la beauté d'une civilisation qui court à sa perte. Ça fait autant peur que réfléchir, mais c'est d'une pertinence rare. Le deuxième livre qui fait du changement climatique sa clé de voûte, c'est « Quand la forêt brûle » de Joël Zask. La philosophe s'est donné un but, nous donner à penser la catastrophe écologique, nous inviter à comprendre ce phénomène inédit qu'est le méga-feu de forêt, et nous extraire un instant du flot d'informations pour s'interroger sur ce que nous disent les événements. Un essai qui prend l'adoption d'une culture du feu, celle des paysans, des pompiers et des écologues, plutôt que le basculement dans ce que Zask appelle le pyrocène. Bref, on ne dévoilera pas toute la réflexion de la philosophe, on dira juste que ce livre est à lire et vous donnera du grain à moudre. Numéro 2 maintenant, les livres pour ceux qui veulent un peu de poésie et de légèreté. Et on vous conseille cette fois le roman de Jean-Paul Dubois, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Un bouquin aussi tendre que drôle et cynique, dans lequel on tente de nous expliquer comment Paul Hensen, superintendant serviable et exemplaire d'un immeuble de 68 appartements, s'est retrouvé condamné à 2 ans de prison. Comme le plaît du chef aujourd'hui, le résultat est à la fois doux, amer et délicieux. Passons maintenant au numéro 3, les Olni. Ils sont incontournables et occupent le devant de la scène de chaque rentrée. Les objets littéraires non identifiés, Olni pour les intimes. Le premier fait 120 pages seulement et il s'appelle « Complément du nom ». Son auteur, Aurore Lachaud, y parle de son père, qu'on a assigné à un bureau sans lui demander son avis, un père broyé par le système capitaliste auquel il a pourtant tout donné. Le style est acéré, cynique et percutant, l'anti-héros touchant et pathétique, le résultat étonnant. Le second Olni se nomme « La clé USB » et Jean-Philippe Toussaint y parle blockchain, numérique et bitcoin, et non, ce n'est pas soporifique. Au contraire, l'auteur analyse notre époque moderne, bref, un récit d'espionnage burlesque, ironique, tantôt recueil de textes variés, tantôt textes pleins d'humour, c'est à dévorer. Et pour finir, numéro 4, les livres pour les historiens passionnés. Si vous aimez l'histoire, et je sais qu'il y en a parmi nous, vous allez être servi, on vous propose un menu complet rien que pour vous. En entrée, lisez « Roi par effraction » de François Garde pour découvrir le parcours, on parlerait aujourd'hui de spectaculaire ascension sociale, de Joachim Murat, un fils d'aubergiste du Quercy, devenu sous Napoléon, maréchal de France, puis roi de Naples, rien que ça. En plat principal, dévorez le dernier roman de Laurent Binet, « Civilisation », une uchronie dans laquelle Colomb n'a pas découvert l'Amérique et où c'est un empereur inca qui débarque dans une Europe en proie aux querelles religieuses. Un mélange des genres jouissif et vraisemblable qui séduit autant que l'originalité et la qualité littéraire de cette œuvre hors norme. Une œuvre hors norme qui, justement, nous met en bouche pour le dessert. Le bal des folles de Valérie Masse. Un bouquin qui met en scène des hystériques de la Salpêtrière, vrai protagoniste d'un roman historique émouvant, juste et maîtrisé, qui donne la parole à celle qu'on a trop souvent tendance à oublier. Et si vous voulez encore un petit extra, sautez sur Le Général a disparu, dans lequel Georges-Marc Benhamou tente d'imaginer ce qu'a bien pu faire De Gaulle le 29 mai 68, lorsqu'il quitte en douce l'Élysée pour Baden-Baden.
Eh bien merci beaucoup Marie pour cet aperçu de la rentrée littéraire qui nous a mis en appétit. Ça nous fait beaucoup de jolies lectures en perspective. Il est 13h06 sur Transistor, vous écoutez le direct de rentrée. Si vous avez envie de vous aussi parler derrière ces micros rouges absolument fantastiques, n'est-ce pas Félix ? Eh bien, vous pouvez venir nous rencontrer le 25 septembre pour notre réunion de rentrée qui aura lieu en D2-001 à 20h. Tout de suite, on passe à une autre rentrée littéraire, celle de la bande dessinée avec Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour à toutes et à tous.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor.
Alors, il n'est pas vraiment coutume de parler rentrée littéraire dans la bande dessinée, vu que les sorties sont grosso modo échelonnées de septembre à décembre. Mais je tenais à faire un petit écho à la rentrée littéraire que Marie vient de nous présenter, justement, pour vous présenter les quelques pépites que la librairie Expérience m'a aidé à sélectionner parmi la myriade d'albums qui se présentent à nous. Bon, alors, ne perdons pas plus de temps et commençons avec hashtag Nouveau Contact, donc publié chez HS, de Bruno Duhamel. Auteur-dessinateur, notamment de Jamais et de Le Retour, paru chez le même éditeur. Donc dans ce one-shot rythmé, nous suivons les mésaventures d'un photographe écossais qui semble a priori tout le temps de mauvais poil, retraité, si tant est que cela veuille dire encore quelque chose, et qui vit seul et reclus dans sa maison de pierre au bord du Castle Loch. Mésaventure qui commence par la publication sur les réseaux sociaux, après que notre antagoniste soit bien shooté au Médoc, de photos d'un alien qui, semble-t-il, a élu domicile dans le lac. Doug, de son petit nom, se retrouve alors en l'espace d'une nuit sous le feu des médias, et son petit coin de tranquillité devient une vraie zone pour journalistes, écolos, scientifiques et touristes en tout genre, qui veulent à tout prix apercevoir cette créature venue des confins de l'espace, que lecteur lui-même n'aura pu admirer que sur deux petites planches seulement. Terriblement d'actualité, donc, l'auteur ici nous dépeint notre société 2.0 en mal de buzz et aux dérives excessives dans lesquelles nous plongent nos névroses. Un vrai plaisir, donc, avec un dessin semi-réaliste très coloré et très agréable, une myriade de personnages dans une histoire claire dans le pays, dans les paysages des Highlands. Changement radical de décor maintenant, puisque nous partons pour la Californie avec In Waves, paru chez Casterman de H. Dungo. Il s'agit ici de sa toute première œuvre, un one-shot également, donc de plus de 350 pages, qui est assez exceptionnel. Plutôt que bande dessinée, nous avons plutôt affaire ici à un roman graphique, à la fois autobiographique et infographique, qui nous fait découvrir une histoire d'amour tragique, la sienne, entre lui donc, et sa petite amie Kristen, atteinte d'un cancer des os auquel elle ne survivra pas, ce qui pourtant ne la décourage pas de continuer à surfer, effectivement, même après avoir été amputée de la jambe. Entrecoupé du coup de séquences historiques sur la naissance et les grands événements qui ont marqué le monde du surf du 19e au 20e siècle, ce récit à l'illustration très contemplative, très poétique, mais surtout très pudique, est sublimé par le trait léger et fluide du dessinateur qui nous plonge avec lui au cœur de vagues émotionnelles. Un dessin sensuel, envoûtant, même au fil de planches monochromatiques finalement, qui contraste parfois avec la dureté de la narration et des émotions transmises. Une œuvre étonnante et très poignante. Ensuite, donc très très différente de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault, avec « Faut pas prendre les cons pour des gens », nous proposent ici un recueil de gags édité chez Fluide Glacial, donc voilà qui vous annonce la couleur, qui viennent combiner humour absurde et cynisme pour mettre en exergue la bêtise ordinaire dans laquelle nous vivons. Et j'aime autant vous dire que tout le monde en prend pour son grade. Du suicidaire à l'immigré, qui sont encore a priori des personnes bien distinctes, en passant par l'éducation nationale et la dimension carcérale, qui là aussi a priori sont encore deux choses très distinctes. Le chômeur, la religion, les genres, bref. Tous ces sujets trouvent leur écho dans l'actualité. Un traitement de fond, pourrait-on dire, d'autant que pourtant la forme est aussi absurde, avec un découpage strict en 6 cases et des duplications de voire 1, 2 ou plus de chaque case à l'identique, dans un style également très monochrome. Un style que nous retrouvons chez le désormais bien connu Fab Caro, et qui colle parfaitement avec le non-sens de ce one-shot. Et maintenant, donc, terminons par une œuvre que vous avez sans doute, dont vous avez sans doute entendu parler, tant la communication autour de sa parution a été importante cet été, et pour cause. Il s'agit des Indes fourbes, édité chez Delcourt, et qui est le fruit de la collaboration entre Alain Hérol, l'auteur notamment de Cap et de Croc, qui est ici au scénario, et de Juanjo Guarnido, donc le dessinateur de Black Sad, qui est ici donc au dessin. Ils sont tous les deux considérés à juste titre parmi les plus brillants du 9e art, respectivement donc dans leur domaine. Et d'ici, du coup, nous nous attendons à quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est le cas. On ne va pas être déçus. Déjà, il s'agit d'un album qui fait plus de 160 pages dans un format A5, qui est prodigieusement démesuré, dans lequel notre protagoniste, Pablo de Ségovie, un Castillan vivant dans une famille de truands, donc, dont la devise est « tu ne travailleras point », selon ce précepte, donc, ce jeune escroc part pour les Indes, donc à bord d'un galion à la recherche de l'Eldorado, c'est-à-dire ici les cités d'or, donc une promesse d'enrichissement simple et rapide. Malheureusement pour Pablos, ses tricheries auprès de l'équipage lui valent d'être balancé par-dessus bord, et le jeune filou s'échouera sur une plage tropicale et se mettra alors en quête d'un camp de camarades espagnols. Une aventure donc dans des paysages chatoyants aux planches détaillées, que ce soit sur les villages autochtones, les batailles et les expéditions, que soutiennent un puzzle scénaristique riche en rebondissements inédits, en pistes brouillées et en flashbacks parfaitement réussis, dans lequel nous suivons donc un anti-héros qui n'a que faire de la morale, un gueux tel qu'il est présenté, qui n'a rien à envier du coup à notre cher Esteban.
Bah merci beaucoup Maxime pour cette présentation de ces quelques BD qui nous donnent bah, très envie de lire. Encore une fois, décidément c'est la rentrée, vous ne nous aidez pas à nous concentrer. Vous êtes en train d'écouter le direct de rentrée de Transistor et le soleil tourne dans les jardins des cartes devant le rue. On commence à avoir de plus en plus chaud, mais ce n'est pas terminé.
On continue tout de suite avec l'encre et la lumière. Élie et Mathilde, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la rentrée de l'encre et la lumière en 5 minutes, c'est autant qu'il nous en faut pour vous partager notre top 5 très subjectif de la rentrée. On commence avec le film Atlantique qu'Eli va nous présenter.
Oui, alors Atlantique, c'est le premier long métrage de la réalisatrice Mati Diop qui se passe aux alentours de Dakar, donc au Sénégal, et qui raconte l'histoire de deux jeunes amants prématurément séparés par le départ du garçon, Souleymane, qui s'embarque avec d'autres ouvriers sur l'océan. Et l'héroïne du film, Ada, ne parvient pas à se résigner à son absence et devient bientôt convaincue contre tous les autres personnages que Souleymane n'est en réalité jamais tout à fait parti. C'est une fiction profonde, délicate, hantée, qui part d'un terrain très réaliste pour dériver progressivement et avec une très grande puissance visuelle vers une évocation poétique et fantastique de ces existences suspendues à la migration. Donc c'est aussi un film qui se place du point de vue de ceux qui voient partir, les proches, les amants, les amis, et qui le fait avec une attention extrêmement sensuelle au visage et au corps des personnages. Voilà, donc le film est présenté au Comédia jeudi en avant-première.
Le quatrième film de notre top 5, c'est Chambre 212, un événement de la rentrée, puisque c'est le nouveau film de Christophe Honoré.
Oui, alors cette fois-ci le ton est un petit peu différent, même s'il s'agit encore une fois d'une histoire de couple. Il était présenté à Cannes dans la section Un certain regard. Je vous fais un petit synopsis. Donc après avoir révélé à son mari Richard, qui est interprété par Benjamin Biolay, qu'elle le trompait, Maria, c'est Chiara Mastroianni, s'installe dans une chambre d'hôtel de l'immeuble d'en face, où elle va recevoir la visite inattendue de personnages issus de son passé. La version rajeunie de son mari, c'est Vincent Lacoste, la prof de piano et le premier amour de Richard, mais aussi tous ses anciens amants, etc. Bref, tout ce beau monde déboule dans un chassé-croisé virevoltant et très drôle. Et c'est aussi une façon très originale de faire du cinéma le lieu d'un soin, d'une thérapie de couple par le biais à la fois de la comédie de boulevard et puis par des moyens poétiques artificiels de mise en scène.
On continue notre top 5 de la rentrée avec Bakuro, un film difficile à regarder mais très urgent qu'Eli nous présente encore.
Oui, c'est un film brésilien, un film des Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. Un film en forme de fresque, lyrique et violente sur une petite communauté de l'état du Pernambouc qui doit faire face à la fois à une sécheresse provoquée par des puissants qui se sont appropriés les ressources en eau, à un gouverneur corrompu, et enfin, et c'est la part la plus fictionnelle du film, à une troupe de mercenaires, de yankees américains qui ont pour but de les éliminer, de les exterminer. Et le film raconte comment les habitants de cette bourgade vont tenter de se défendre face à ces menaces, toutes plus terribles les unes que les autres. C'est un film extrêmement libre d'esprit, parfois provoquant, très violent, qui mélange les genres et qui, sous couvert de science-fiction, puisque l'intrigue est censée se dérouler dans un futur proche, propose une vision très très percutante et perturbante aussi du Brésil contemporain.
On continue le top 5 avec le deuxième film, on se rapproche du top avec Vif Argent. C'est l'histoire donc d'un jeune homme nommé Juste, mort accidentellement et qui est chargé de recueillir les dernières pensées des récents morts afin de les faire passer définitivement de l'autre côté. En échange de ce travail, il peut voir et être vu des vivants, faire partie du même monde. Un jour, il tombe sur Agathe, qui le reconnaît sans être certaine qu'il s'agit bien du garçon qu'elle a aimé quelques années plus tôt et qu'elle a perdu de vue. Ils vont devoir trouver l'un et l'autre un moyen de s'aimer et de passer outre la mort. Donc on a beaucoup de références dans ce film-là et au-dessus desquelles, bien sûr, celle de Cocteau et de son testament d'Orphée. Le plus grand mérite du film, enfin parmi l'un de ses plus grands en tout cas, est celui de placer en son centre la dialectique toujours sensible dans chaque image cinématographique de l'apparition et de la disparition du sujet. Toujours se pose et se renouvelle dans ce film la question de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas, ce qui appartient à l'image ou pas. On apparaît dans ce film parfois au-delà même de l'image, la mort n'est pas l'absence d'apparaître et l'existence se ressent pleinement parfois dans un courant d'air dans les cheveux ou une simple potentialité. On recommande vivement. Et on recommande encore par-dessus tout notre top 1, le film de la rentrée, Jeanne, de Bruno Dumont, qui poursuit son œuvre burlesque et déjantée au sein de laquelle le sacré descend sur terre et se retrouve dans le bas du quotidien. Après Jeanne, l'enfance de Jeanne d'Arc, Dumont s'attache à représenter la deuxième partie de la pièce de Peggy, celle consacrée au combat et au procès de Jeanne d'Arc. En choisissant une petite actrice de 10 ans, celle qui d'ailleurs avait tenu le rôle de Jeanne dans la première partie de l'œuvre de Dumont,
Dumont creuse l'écart entre l'institution religieuse et froide et cette figure qui devient en définitive l'allégorie de cette petite flamme de courage et de croyance qui fait peut-être le propre de l'humanité que recherche toujours le cinéma de Brunon Dumont. L'étrangeté presque animale des personnages de Dumont finit toujours par frôler la grâce que l'on retrouve ici dans un regard, un frissonnement imprévu, une diction particulière ou un accent musical. Et voilà, c'est déjà fini pour nous. On vous retrouve bientôt pour d'autres émissions. En attendant, on passe l'antenne.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor.
Il est 13h18 sur Transistor. Vous écoutez notre direct de rentrée. On est devant le rue Descartes et je peux vous assurer qu'il n'y a plus de queue. C'est le moment de venir manger et de nous écouter en ce moment. D'ailleurs, notre webmestre a pris un plateau. Il nous fait de l'œil. On a très faim. Bon. J'en profite quand même pour vous dire qu'on a notre réunion de rentrée le 25 septembre à 20h en D2001. N'oubliez pas de venir nous rencontrer pour vous aussi passer derrière le micro. On passe tout de suite à la musicienne.
Et donc la traditionnelle blague que vous attendiez toutes et tous. Dis-moi Maï, quelle est la différence entre un batteur et une boîte à rythme?
Facile, à la fin il y a 5 mesures.
Ou je vais dire des trucs simples.
Bah alors, Bebe, t'as l'air tout triste, qu'est-ce qui se passe?
Du coco, la reprise, tout ça.
Je vois ça, t'es en train de lister quoi là?
Bah, je suis en train de lister le nombre de concerts que je vais rater cette année.
Ouh, j'avais zappé, pauvre.
Tant de bonnes choses, à commencer par le retour d'NTM pour une ultime tournée dernièrement spoilée comme simple opération de com' par la moitié du bicéphale dionysien.
Chapeau, même en musicienne, tu révises tes gentilés.
On fait comme on peut, mais enfin, je ne pouvais pas rater l'occasion de les voir à la Halle en octobre prochain, après les avoir ratés à la fête de l'humain en 2018. Ça aurait été une belle occasion de les réécouter, et les, ainsi que les vieux classiques de 95.
Toujours pas quand vous roulez en plus. Ouais, mais si elle a manqué, ça me rend plus excessif. Ouais, que ça m'attire. Passe-moi, j'active mes ménages, mec. Ça y est, je l'ai. Ouais, les choses sont faites. Mais, je comprends pas pourquoi tout le monde me marque comme ça. Alors, passe-moi, j'ai du monde sur la corde à linge. Là, mes cool chaîne et un X.L. C'est l'anguise pendant que je prends tout mon temps. Pourtant, ça la mêle.
Tu gardes la forme, toi?
Ah, tu te demandes quel est mon secret pour rester pleine d'énergie, de vitalité, de peps tout au long de ces journées de rentrée?
Alors déjà, plus personne n'utilise le mot peps.
Je m'enjaille et me motive avec un petit mood un peu vénère. J'impose un certain vibe, un vibe féminin, militant, féministe, un beat de rap de femme qui se laisse pas marcher sur les pieds et envoie les masculins pêtre dans le décor.
Brrr.
Je vais vous proposer aujourd'hui un petit tour du monde du rap
féminin.
Féminin et féministe surtout.
N-E-B-L-I-N-N-A 2000 siempre Soy el doble H femenino en el rap, yo persona. Ah. Cada hombre es un abismo, cada mujer es lo mismo. Y no me quieran conquistar a punta de materialismo. Que no quiero el clasismo.
N-E-B-L-I-N-N-A Neblina, ça vous parle? Cette vénézuélienne rap depuis 2008 avec une instru à l'ancienne, synthé et beat sec. Elle a un flow rapide et nerveux. Elle nous maintient à la lisière de la colère. Il faut dire qu'elle tape sur les clichés sexistes. Reine de beauté ou mère de famille, pour elle, les femmes ont d'autres horizons devant elle. Neblina n'hésite pas à parler notamment IVG.
Interdit au Venezuela.
Et sexualité féminine avec un affront qui fait plaisir. À écouter.
Tu nous rappelles son nom?
Neblina.
Comment?
Oui, bon, ça va, Bebe. Parle-nous de ta liste plutôt. T'as mis d'autres rappeurs?
Bah ouais, y'a Kerry James qui passe au Transball le 25 novembre. Ça me fout la haine de voir le nombre de fois que je l'aurais raté.
À ce point?
Un, deux, peut-être trois fois. Première fois en Cannes parce que je voulais pas revivre le lendemain de concert des Red Hot devant ma version d'anglais en pleine redescente.
Mais à quelle heure tu fais ça, toi?
Mauvais calcul. La deuxième fois, j'ai pas pu. Et la troisième. Non, j'étais pas là. Et la troisième, j'avais la flemme de me bouger jusqu'à Caluire.
Mais t'abuses!
Ah, je sais.
Mon rap vient de mes entrailles, mon rap porte une balafre, mon rap vient de mes entailles. Mon rap a une stature, une carrure, un charisme, une voix, une pensée. Et les Français, pas qu'un rire. Mon rap vient des cabrets, de mes lunes oreilles. Hollywood, négro, pas Hollywood. Mon rap a quelque chose.
Et autour du monde du rap féministe, après le Venezuela, on va.
En Islande.
Lick it till I die. Lick it till I die. Lick it till I die.
on a affaire ici à un groupe d'Islandaises qui n'a pas froid aux yeux. Leur nom, Reykjavíkurtur. Ouais, imprononçable pour la pauvre française que je suis. Mais ce collectif de 17 femmes vole des tours et d'ailleurs s'impose de plus en plus sur la scène internationale. Plus d'ailleurs que sur leur île natale ou leurs textes qui abordent la politique, les abus sexuels, la corruption, le féminisme, la sodomie, les poils, le body shaming et la culture du viol déplaisent. Allez savoir pourquoi.
Masque, on vous voit venir.
Les Reykjavíkurtur balancent pas mal vers la pompe. Mais le flow est là. Perso, c'est moi ma cam musicalement, mais franchement, ces filles valent le détour. 16 rappeuses et une DJ dans un empowerment décoiffant. Et toi, t'en es où avec ta liste du bad, du coup? Tu as changé de style?
C'est totalement. Il aurait fallu bouger jusqu'à Paris la semaine... je me suis perdu dans le mix.
T'aurais voulu bouger la semaine prochaine à Paris, c'est ça?
C'est ça, pour voir Alceste à l'Olympia. Mais seulement j'avais pu y aller. Mais c'est un groupe indescriptible du multi-instrumentiste Neige qui vient tout droit de Bagnols-sur-Cèze, donc pas très loin d'ici. Big up aux gens de PACA. Entre inspiration littéraire romantique à la Baudelaire ou Verlaine à la sauce métal alternative, ça vaut le détour.
Et tu les as déjà vus ou pas?
L'année passée avec un copain au CCO à Villeurbanne, une petite salle à l'ambiance super intimiste et une équipe très chaleureuse que je recommande vivement.
Et t'es allé voir un groupe à Lyon sans en parler en musicienne?
Et de l'autre côté, une nouvelle reine du rap féministe à nous proposer?
Tu ne crois pas si bien dire pour cet artiste, je fais un détour dans les années 90 aux États-Unis. Get the rhyme, it is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to rhyme. Can you relate to a sister dope enough to make you holler and scream? Yo, let me take it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about to get into. J'ai nommé Queen Latifah. Dans un son old school et un peu plus hip-hop, à l'instru cuivré, The Queen a néanmoins la classe.
La grande classe, ouais.
Effectivement, rappeuse pionnière, féministe et lesbienne, elle a été une des premières à aborder dans ses chansons des questions comme le harcèlement de rue et les inégalités hommes-femmes, mais aussi celle de la visibilité des femmes noires dans le monde de la musique.
Sorry Beyoncé, you have a mummy.
Installez-vous confortablement avec un petit whisky, les filles, et sentez-vous devenir badass. Bon, et toi, bébé, t'as fini avec des groupes qui font tout chelou encore?
Presque, enfin dans un autre style.
Je sens venir le morceau de prog de 8 minutes qui fait des patterns polyrythmiques avec des parties montées à la schlag pour faire durer le tout.
Mais c'est si bien décrit, on dirait presque des relances écrites. Mais effectivement, le groupe suédois de métal progressif inspiré tant du death metal que du métal mélancolique d'Europe du Nord vient présenter son nouvel album dans nos contrées le 11 novembre. Et je viens de remarquer que j'ai même pas dit son nom, c'est OPF. Voilà. Donc.
Le 11 novembre à l'Olympia, c'est un lundi ça, non?
Ouais, c'est nul.
Bon, perso, je reste aux States pour trouver ma nouvelle rappeuse féministe, mais bien ancrée dans notre décennie cette fois. I never wore a ruby slipper. Fuck is a silver spoon. Silverstone ain't my sister. Take your tooth and get a tomb. I should get a room with myself. Help. Is that over the top shelf? Well, nah, I'm sexy as his beat is. Strong as his feet is. They call me baby, yeah. Like I'm a fetus. Jesus Christ with it. Blimes est californienne, rappeuse lesbienne féministe et se définit elle-même comme profondément féministe, antiraciste et humaniste. Son talent n'est plus à prouver avec ses instrus profonds et son flow sûr, rythmé mais calme mais assuré. Elle est la force tranquille du tsunami.
Paye ta métaphore.
Elle évolue sur la scène queer de Los Angeles et multiplie les collaborations comme dans le morceau qu'on vient d'entendre où elle chante avec Method Man. C'est une resta, elle est dans tous les bons festoches hip-hop LGBTQI, il faut la suivre. Mais, wow, bebe, t'as mis beaucoup trop de métal dans ta liste, tu vas venir sourd, petit voyou.
Nya nya nya, Maë, Murla, 23 ans, j'écoute du jazz et j'ai voir des concerts de classiques à l'Auditorium.
Et oh, ça va, hein.
C'est toi qui a commencé. Bref, là oui, on parle de péché mignon du métalleux, ce petit groupe produit du grand vide ricain qu'est Des Moines, d'où est issu le groupe Slipknot, king du nu metal des années 80, des années 2000.
C'est ce que toi aussi, tu commences à te faire vieux, hein, bébé.
C'est écrit « Hé, pas bébé ». Enfin bref, c'est vrai que leur dernier album en date, sorti en août dernier, marque aussi les 20 ans de leur premier album. Ils sont d'ailleurs plus connus pour jouer aux US qu'en France. Je les ai ratés quelques fois et voilà qu'ils viennent jouer à domicile en février à La Halle. Je ferai peut-être une entorse cette année au règlement en honneur de l'ado que leur venue fait vibrer en moi. Une petite dernière pour la route, Maëlle ?
Petite dernière, vas-y, comme tu parles de mes rappeuses féministes, toi.
Je parlais d'une chanson, ça va.
Écoute, je vais vous parler d'une lyonnaise pour finir. Parce qu'à moins d'être polyglotte, on n'a pas pu trop apprécier les textes jusque-là. Chilla, ça vous parle ?
Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je traquerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme. On se dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments.
Elle a commencé à rapper à 17 piges et s'est fait connaître avec ses textes engagés. Hashtag balance ton porc, elle est du genre à balancer au détour d'un texte des punchlines du genre la vie aussi... La vie aussi rose, pardon, que le peignoir de Strauss-Kahn, ma fille, t'es en sécurité partout, aucun relou, tu ne crains rien, je le jure, sur la queue d'Hervé Weinstein. Ou encore, je ne crains pas les hommes, mais me méfie de ceux qui me veulent du bien.
Elle a dû prendre tellement cher.
Ah ça, fan de Kerry James, elle a pu collaborer avec lui, et on sent une vibe assez proche d'ailleurs. Mais c'est pas tout, on arrive au bout de l'émission, il serait temps de finir ta liste aussi, bebe. Au pire, tu pourras toujours continuer à pleurer après avoir rendu antenne.
Surtout que certains concerts de 2020 ne sont toujours pas programmés, aïe aïe aïe.
Si t'avais à retenir un concert que tu ne pourras pas aller voir cette année, ce serait lequel ?
Eh bien, ce serait Alf Moonrun à l'Olympia, décidément, en novembre. Mais là, on touche à ce qu'il y a de plus cool dans un concert. Il y a là avec des poteaux. Et quand on voit un concert où tous les frérots vont sans pouvoir les suivre, c'est triste. Surtout une perle telle que ce petit groupe indé canadien dont l'album est à venir et les singles déjà disponibles. Nobody ever seems to know for the right way. Then I heard you speak in no uncertain terms.
Il est 13h30 déjà sur Transistor, vous écoutez le direct de rentrée, on est toujours devant le rue Descartes, il n'y a plus grand monde à présent, il vous reste une demi-heure pour venir manger, dépêchez-vous. On retrouve tout de suite Maxime, Mathilde et Martin pour Les yeux ont des oreilles en version très courte. Bonjour à tous les trois, rebonjour.
Première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de clouer une planche de pain pour poser mes livres. Quand vous allez vivre 6 mois dans une cabane, soit il faut avoir une vie intérieure importante, soit une très bonne bibliothèque.
Et vous avez les deux ?
Je ne sais pas, mais j'avais une très bonne bibliothèque.
L'escalier, les princesses, car c'est ainsi que je les appelais au fond de moi, même quand j'ai compris qu'elles n'étaient pas précisément des princesses, m'attendaient avec 1000 caresses et démonstrations d'amitié. Elles m'ont demandé mon nom, et elles le répétaient entre elles. Laïla, Laïla. Elles m'ont apporté du thé fort et des pâtisseries au miel, et j'ai mangé tant que j'ai pu. Ensuite, elles m'ont fait un lit dans une grande pièce sombre et fraîche, avec des coussins disposés par terre, et je me suis endormie tout de suite dans le brouhaha de l'hôtel, bercé par le grincement de la musique d'un poste de radio dans la cour. C'est ainsi que je suis entrée dans la vie de Madame Jamila, la faiseuse d'anges et de ses 6 princesses.
Je pourrais dire qu'avoir le vertige, c'est être ivre de sa propre faiblesse. On a conscience de sa faiblesse et on ne veut pas lui résister. On veut être plus faible encore. On veut s'écrouler en pleine rue, aux yeux de tous. On veut être sous terre, encore plus bas que terre.
Les voitures des émigrants surgissaient en rampant des chemins de traverse, regagnaient l'autostrade et reprenaient la voie des migrations, la route de l'Ouest. À l'aube, elles détalaient, pareilles à des punaises. Dès la tombée du jour, elles se rassemblaient et venaient grouiller autour d'un abri ou d'un point d'eau. Et parce qu'ils se sentaient perdus et désemparés, parce qu'ils venaient tous d'un coin où régnait la désolation et les soucis, où ils avaient subi l'humiliation de la défaite, et parce qu'ils allaient tous vers un pays nouveau et mystérieux, instinctivement, Les émigrants se groupaient, se parlaient, partageaient leur vie, leur nourriture et tout ce qu'ils attendaient de la terre nouvelle.
Je me demande ce que la vie peut avoir en réserve pour un homme si seul. L'après-midi, quand la mer fossile était chaude et inerte, les arbres à vin immobiles dans la cour, la petite ville martienne, là-bas, tel un osselet refermé sur elle-même, on pouvait voir Mr. K, dans sa pièce personnelle, en train de lire un livre de métal aux hiéroglyphes en relief, qui le fleurait de la main comme on joue de la harpe. Et du livre, sous la caresse de ses doigts, s'élevait une voix chantante, une voix douce et ancienne, qui racontait des histoires du temps où la mer n'était que vapeur rouge sur son rivage.
C'était un homme qui avait vécu beaucoup et largement, avec ses 38 ou 39 ans. Il était loin d'être encore jeune, et toute cette « vieillesse », comme il disait, lui était venue presque absolument à l'improviste. Il comprenait lui-même ce qui l'avait fait si vite vieillir. C'était non pas la quantité, mais pour ainsi dire la qualité des années. Et que, s'il se sentait faiblir avant l'âge, c'était par le dedans plus vite que par le dehors.
Il marche à la poursuite d'un soleil d'hiver, la route est froide et rouge, où il presse les bêtes. Les élans d'une voix qui leur est familière, il mène son bétail au-dessus de Cabra.
Quand je reprends ma recherche de la piste du fugitif, un bruit ébranle la forêt. C'est Tralcan, le tonnerre, qui annonce l'orage. Je sais que ce sera difficile de retrouver la piste sous la pluie, car Mapou, la terre reconnaissante, ouvre tous ses ports, et on ne perçoit plus que l'odeur de sa joie. Je me réfugie sous un gros tronc et je me couche. Alors, je sais pourquoi l'odeur du fugitif me rappelle tout ce que j'ai perdu. Et en pensant douloureusement à ce que j'ai perdu, je m'endors sous la pluie qui tombe sans fin, et je rêve.
Merci, merci beaucoup Mathilde, Maxime et Martin pour Les yeux ont des oreilles, version mini-mini parce qu'il est déjà 13h34. C'est la fin de ce direct de rentrée. On était devant le rue Descartes avec Mathilde, Marie-Rémy, Martin, Maxime, Élie, Mathilde, Benoît et Maë. On remercie bien sûr notre régisseur devant l'éternel, Félix Barancy. C'était Transistor. Si toi aussi tu veux passer derrière le micro, n'hésite pas à venir nous rencontrer à notre réunion de rentrée le 25 septembre prochain à 20h en salle des 2-0-0. Du site Descartes de l'ENS de Lyon. On a hâte de te rencontrer. Très bonne journée à toutes et à tous.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
En direct de rue Descartes. La web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité.
Computation.
Des chroniqueuses et chroniqueurs.
Erasing.
Prêt à tout.
Force field. Frequencies. Computation. Erasing.
Je suis